Nous, première personne du pluriel, il est temps de dire « nous », écrivait Edoui Plenel dans un texte magnifique en 2016, un manifeste de nos causes communes. Donc voici un court extrait qu'on ne cite jamais. Dire « nous », mais quel « nous » au fait ? Le « nous » de l'égalité, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, d'appartenance ou de croyance, de sexe ou de genre. Le « nous » des exigences communes, où s'imagine concrètement l'espérance, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous habitons, dans tous ces lieux où nous faisons déjà route ensemble. Le « nous » des audaces démocratiques, sociales, écologiques et culturelles, sans lesquelles il n'est pas de confiance retrouvée dans un avenir partagé. Le « nous » des humanités conscientes de leurs relations vitales à la nature, à la terre et au ciel, à l'eau et aux plantes, aux autres espèces, au tout vivant du tout monde dont nous sommes, le nous de notre richesse commune, le nous de toutes les minorités actives dont sortiront demain les majorités inventives, ce divers qui fait l'exceptionnelle pluralité de la France, de sa langue comme de ses territoires, de ses paysages comme de ses nourritures, de ses sons et de ses images, de ses cultures et de ses récits. Edoui Plenel sur le nous, première personne du pluriel.
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel sens mon invitée d'aujourd'hui donne-t-elle au nous ? Elle est romancière, poétesse. Son dernier livre de poésie, justement, L'exil n'a pas d'ombre, sort demain aux très belles éditions Bruno Doucet. C'est la traversée du désert d'un homme et d'une femme qui marchent l'un derrière l'autre, guidés par l'horizon de la liberté. Bonjour Jeanne Benhammer.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être
Merci
là
à vous.
Ce matin. Avant toute chose, pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de dire « nous » à votre avis ?
Écoutez, c'est quelque chose à quoi j'essaie de réfléchir. J'ai pas de réponse magique, ce serait bien. Mais par contre, ce que je pense, c'est que la règle grammaticale, on dit « nous » à partir du moment où il y a un « je » qui va s'additionner à d'autres. Or en fait, le vrai « nous », ça n'est pas ça. Ce serait facile de faire « je plus je égale nous ». Je pense que le vrai « nous », et le texte de Plenel est très beau pour ça, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'entrer dans le « nous », c'est accepter d'être transformé par les autres. Et ça, on a du mal. On veut bien les côtoyer, on veut bien être à côté, on veut bien manifester côte à côte, mais on ne veut pas être transformé.
Pourquoi, Jeanne Benhammer, est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a nécessité, il y a urgence à le trouver et à le construire, ce « nous » ?
Parce que je pense que nous sommes très proches de quelque chose, hélas, qui est urgent, mais qui est, il n'y a pas que la catastrophe écologique annoncée. C'est que on est dans une catastrophe humaine qui se vit déjà. Il n'y a qu'à aller dans les rues le soir pour voir les gens qui dorment dehors, etc. Et moi, je me rappelle que quand j'étais enfant, dans ma ville de La Rochelle, il y avait deux ou trois clochards qu'on connaissait. Ils avaient des noms, on les connaissait. Et maintenant, quand je passe dans les rues, que ce soit, alors évidemment pas que dans ma ville, mais partout, il y a plein de gens qui dorment dehors.
Dans quel état ça vous met ? C'est la colère, c'est la tristesse qui prédomine ?
Ça me met dans un terrible état parce que j'ai le souvenir de mon fils quand il était enfant et qui m'avait dit un jour, après avoir vu terrible émission à la télévision, on voyait une petite fille se noyer dans la boue, voilà, à l'autre bout du monde, et il m'avait dit « mais on ne peut rien faire ». Et moi, c'est cet état-là dans lequel je suis. Alors j'essaie de voir ce que moi je peux faire.
Cette impuissance, Jeanne Benhammer, c'est un moteur pour l'écriture ?
L'écriture, elle est là depuis toujours. Et l'impuissance, non, c'est pas un moteur pour l'écriture. L'écriture est une nécessité, c'est autre chose. Mais par contre, mon engagement dans le monde, oui, oui. Et l'écriture en fait partie.
En tout cas, la question de l'exil, parce que c'est de cela que vous nous parlez en creux, Jeanne Benhammer, elle est absolument centrale, non seulement dans votre travail, mais aussi dans votre histoire intime et personnelle. Qu'est-ce qu'il vous évoque, ce mot d'exil ?
La langue. Le premier exil, c'est celui de la langue. Et je m'interroge beaucoup, parce que moi, je viens d'une famille dont mes deux géniteurs, mon père et ma mère, mon père était de langue arabe et ma mère, donc c'était l'Italie du Nord et elle avait parlé allemand aussi dans sa jeunesse. Donc il y a ce mélange de mes parents et en fait ils ont choisi la langue française. Moi je parle français, Bon, j'écris en français, je rêve en français, mais pas que. Et il y a derrière, il y a l'italien, il y a la langue arabe que j'ai entendue quand j'étais enfant. Et ça me travaille énormément de savoir quelle est ma vraie langue.
Quand est-ce que vous êtes arrivée en France ?
J'avais 5 ans et demi quand je suis arrivée.
Et quelles sont les premières images ou les premiers bruits de cette arrivée ? Vous vous en souvenez ?
Oui. Oui, je me rappelle que la première chose, c'était le gris. Parce que je suis arrivée l'hiver dans une ville au bord de l'Atlantique. Et moi, je venais d'endroits solaires. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression du gris. Or, en fait, j'ai appris toutes les nuances du gris. Et j'adore cette ville maintenant. Et j'adore l'océan.
Exil de la langue, exil géographique, Jeanne Benhamer, mais également exil littéraire. À quelle sorte d'exil la découverte de la littérature et du monde des livres vous a-t-elle confrontée ?
Écoutez, quand on écrit, on se met en exil de la langue commune. Voyez, Augustin, la langue que nous parlons là, ce matin, ensemble, c'est la langue commune. Quand j'écris, je peux me permettre d'entrer dans un autre rapport avec la langue. Je me mets en exil de la langue commune pour aller chercher la langue singulière qui est celle de mon propre corps, en fait. Et ça n'est pas la même. Et j'essaie, et c'est une espérance un peu démesurée quand on y pense, mais voilà, on le fait, j'essaie de partager cette langue-là, la langue singulière, avec d'autres qui, eux aussi, ont d'autres langues singulières.
Qu'est-ce que c'est un livre pour vous, Jeanne Benhamer ? Quel genre de compagnon est-ce que c'est ?
C'est ma maison. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup déménagé, qui, bon, là, j'ai l'impression d'avoir trouvé une maison qui me convient. Mais en fait, quand je suis n'importe où, le livre, quand je l'ouvre, c'est ma maison. C'est comme ça que je retrouve un chez-soi. C'est dans l'écriture silencieuse. C'est dans le silence de l'écriture.
Et quand est-ce que vous avez pris conscience que lire des livres, c'était aussi un acte qui, d'une certaine façon, vous éloignait de votre famille ? Parce que c'est ça qui est fascinant dans ce que vous racontez.
Je me suis rendu compte qu'on ne lisait pas la même chose. Et en même temps, j'ai un regard très plein d'affection pour les lectures de mes parents. Il n'y avait pas de bibliothèque chez moi. Donc, on n'était pas des lecteurs. Ma mère lisait des romans photos. Et elle aimait ça. Et moi, j'essayais d'en chipper et de lire ça aussi en ayant l'impression d'accéder à quelque chose d'interdit. Mon père lisait plutôt du côté de l'histoire ou des livres plus religieux, en fait. Et moi, je suis entrée dans la littérature avec l'école. C'est l'école qui m'a apporté ça.
Il y avait une incompréhension de la part de vos parents ?
Pas du tout. Il y avait un désir très fort que je suive ma route. Ils ont beaucoup soutenu la route.
Étrangement, Jeanne Benhamer, écrire des livres, vos propres livres, ça a été une façon de réparer ce lien, possiblement brisé, avec les vôtres ?
Non, parce que le lien, il n'a pas été brisé, mais c'est quand on grandit, on fait sa route, chacun, chacune, en dehors de nos histoires, et moi de la mienne d'histoire. Et forcément, il y a un moment où on regarde sa famille d'un autre œil. Et j'ai élargi ma famille. Ma famille n'est plus que... ça ne se réduit plus à une famille de sang. Ma famille, c'est beaucoup plus large aujourd'hui.
Vous avez dit « nous », en somme.
Oui, j'essaye.
Vous savez qu'il y en a une qui ne dit pas « nous » dans cette émission. Vous la connaissez peut-être, Jeanne, c'est la culture. Et son actualité qui est bien trop auto-centrée, narcissique et complètement mégalo pour dire « nous ». Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 6 février ?
Cette tendance de la peinture, optical art, c'est-à-dire avec abréviation op-art.
OP pour l'OPAR, le Centre Pompidou à Paris inaugure aujourd'hui le partage des formes, première grande rétrospective française consacrée à Victor Vasarely, pape de l'art optique. Près de 300 pièces pour retracer la carrière de ce peintre incontournable des décennies 60-70, dont les tableaux et les sculptures colorées, géométriques, conçues comme de véritables abstractions visuelles, ont imprégné la France des 30 Glorieuses. C'est jusqu'au 6 mai et c'est stylé.
Bienvenue dans cette belle maison qu'est l'Opéra de Paris.
Bastille.
Tous à la Bastille, l'Opéra de Paris a choisi le cabinet d'architecture danois Henning Larsen pour finaliser les projets de sa salle modulable et des nouveaux ateliers de décor de l'Opéra Bastille. Prévu il y a 30 ans, l'aménagement de ces espaces et notamment de la nouvelle salle de représentation dotée de 800 places permettra à l'institution de proposer des formes de spectacles plus légères à des prix plus accessibles. Par ailleurs, un restaurant ouvrira ses portes dans l'enceinte de l'Opéra. Livraison prévue pour 2023. $200 millions, c'est ce que vient de donner la famille Rockefeller au MoMA, le musée d'art moderne de la ville de New York. C'est l'une des sommes les plus importantes jamais léguées à un musée. En 2005, David Rockefeller, le patriarche de la famille, mort en 2017, avait fait don de $100 millions ainsi que de nombreux tableaux de maîtres, dont des Gauguin, des Matisse et des Picasso. C'est très très beau. Et mercredi de communion, séance à profusion, car aujourd'hui dans les salles, on tombe sous le charme de La Favorite, la fable historique qui est signée Yorgos Lanthimos, qui réunit Olivia Colman, Emma Stone ou Rachel Weisz à la cour d'Angleterre, grand favori des Oscars. On succombe à La Dernière Folie de Claire Darling, de Julie Bertuccelli avec notre invitée d'hier, l'impériale Catherine Deneuve. Et sinon, on suit Les Aventures Intimes du Belge Félix von Groningen aux États-Unis avec My Beautiful Boy, avec un Steve Carell en Père Courage et Timothée Chalamet. Ce matin, la romancière et poétesse Jeanne Benhamer, invitée de Boomerang ce matin pour L'exil n'a pas d'ombre. Un texte magnifique, je dois le dire, où on marche pour ainsi dire dans les pas de deux exilés, un homme et une femme, et où vous nous parlez, Jeanne, de langage, de mots et de livres. J'aimerais que vous nous le fassiez entendre, ce texte dont j'ai choisi moi-même un extrait, si vous le voulez bien.
Je veux bien. Il n'y a que dans le livre que j'arrivais à marcher en paix. Je marchais dans les signes. Mon corps était emporté. J'allais et je vibrais toute. Mon sang était vif sous ma peau. Oh, que j'aimais l'aventure de lire les signes. Oh, ma joie, toute ma joie. C'est ma joie qu'ils ne supportaient pas. Sans eux, ma joie, sans eux. Une joie pour une fille toute seule. Ils ont déchiré mon livre. Dans mon livre, je voyais ce que les yeux ne voient pas. Des images. Et encore des images, c'était ma force, ma merveille. Le livre a ouvert en moi des portes immenses, plus rien ne peut les refermer, plus rien. Ils l'ont déchiré, mais les portes battent à l'intérieur de moi. Rien ne peut refermer ce qui a été ouvert. Je veux découvrir, je veux continuer l'aventure du livre, découvrir, découvrir. Devant moi, autour de moi, le sable fin, si fin, que parfois j'ai l'impression de marcher dans la poussière. Il faut écrire dans la poussière. Dans la poussière, c'est là qu'il faut écrire son nom.
Jeanne Benhamer, ils ont déchiré mon livre. C'est pour ainsi dire la seule information que vous nous donnez sur cette femme qui marche et sur les raisons potentielles de son départ. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans cet acte dont on devine quand même la violence ?
C'est toute la violence qui est là et qui a toujours été là et qui est là encore dans le monde. C'est ça qui est redoutable. La violence contre ceux qui lisent, contre ceux qui osent l'aventure de la liberté. Parce que lire, c'est quand même être libre. Lire, c'est multiplier sa vie. C'est devenir quelqu'un qui est au bout du monde, qui a un autre âge, un autre sexe. Et tout ça, on s'en fiche quand on lit. On devient quelqu'un d'autre. Et du coup, on ressent des choses. C'est peut-être là qu'on peut s'approcher du « nous ». Le fameux « nous », parce qu'on accepte cette transformation que nous propose le livre.
Donner accès au livre, faire en sorte qu'un individu devienne lecteur, ça a été, c'est toujours un de vos grands combats,
oui.
Jeanne Benhamer.
Oui, 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 j'essaye, à ma façon, dans mon petit monde à moi, de soutenir ce que le livre peut apporter et l'accès au livre.
Je pense aux ateliers, par exemple, que vous animiez en Seine-Saint-Denis, mais aussi votre travail d'enseignante, tout simplement.
J'ai été enseignante, y compris dans des lieux où le livre est très loin, et les ateliers sont là pour ça, oui. Vendredi, je serai à Grigny pour rencontrer des élèves sur le ramadan de la parole, par exemple.
Quand voilà. Vous les faites écrire, en quoi la pratique de l'écriture peut-elle contribuer à révéler des lecteurs, Jeanne?
Je pense que quand on écrit, quand on se frotte justement à essayer de trouver ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir cette langue singulière, et qu'on comprend la liberté que c'est avec les mots, on devient un lecteur extrêmement aigu.
Les révéler à eux-mêmes comme des êtres de langage, en réalité.
Oui, et révéler que la langue n'est pas que la langue, effectivement, que transmet l'école, et c'est très bien la maîtrise de la langue, mais qu'il y a autre chose, il y a un art de la langue.
J'ai l'impression que vous nous dites, d'une certaine manière, en creux, que parfois, le langage ou la langue font peur. Pourquoi,
mais bien sûr,
à votre avis
peur. Parce qu'on a tellement mis le mot à une place qui n'est pas justement sa bonne place entre les êtres humains, qu'on finit par penser que les mots nous trompent, que les mots sont trop difficiles, qu'on ne va pas trouver ces mots. Et ça, derrière, il y a aussi le fait qu'on se dit « mais nous, on n'a pas d'imagination ». Combien de fois j'ai entendu ça? Et le mot fait image, le mot est fait pour faire venir des images, pour nous rendre visionnaires, pas spectateurs, visionnaires.
Qu'est-ce qui vous fait peur à vous, Jeanne Benhamor?
Dans la vie, vous voulez dire? Oh, la peur de la peur, c'est la pire des choses. Et ça, j'essaie de travailler pour m'en débarrasser le plus possible. C'est difficile.
En écrivant,
je n'y échappe pas.
Par exemple?
Oui, quand j'écris, effectivement, j'ouvre quelque chose d'une liberté qui est la mienne et j'ai moins peur.
Vous n'avez pas peur là maintenant?
Non.
Bon. Alors on n'aura pas peur. Pendant quelques minutes, on laisse la parole à Joan Baez, l'une de ses chansons que je préfère. Vous méritez bien sa Best of Friends en 1974. Vous êtes sur France Inter avec Jeanne Benhamor. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
We may not always be the best of lovers, but if you leave it to me, I think I can see we'll always be the best of friends. And one day when I am old and on the porch, with knittings around my knees, you hear me say, excuse me please, but aren't you the one? And wasn't it fun way back when? Or maybe in a year you'll reappear, and if that should come true, I'd throw my arms around you and watch you smile just for a while once again. Best of lovers, but if you leave it to me, I think I can see we'll always be the best of friends. La 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 la.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
La douceur, l'empathie, les silences maîtrisés, elle a toute la preuve de l'être charismatique et poursuivie le soir venu, vous le savez, par une foule de disciples assoiffés de savoir, d'interrogation et de reconnaissance qu'elle accepte gracieusement d'éclairer de ses lumières au gré de leçons tenues à l'ombre d'un pommier, entre deux orangeades, deux couronnes de marguerites, deux chapitres, de la recherche du temps perdu, visage ovale, regard apaisant, chevelure indomptée, tout en jaune et noir ce matin, la romancière et poétesse Jeanne Benhamor, invitée de Boomerang ce matin pour L'Exil n'a pas d'ombre, Ce texte qui, on l'a compris, nous parle à la fois d'exil, mais aussi de langage, d'écriture, de langue. Quand avez-vous commencé à écrire, en somme ?
J'ai commencé à écrire avant de savoir lire. J'ai le souvenir que c'est mon souvenir de mon premier désir, c'était de demander à ma mère, sur le petit tableau dans la cuisine, de me former les lettres de l'alphabet.
Vous dessiniez, somme toute.
Eh ben, c'est ça. C'était du dessin, en fait. Et après, j'ai écrit des petites histoires quand j'avais 7 ans et j'ai jamais arrêté.
Déjà de la poésie ?
La poésie, oui, très tôt.
Je pose la question parce qu'il se trouve que le premier livre que vous ayez publié, c'était de la poésie, oui. Et pas un roman, c'était il y a 30 ans, ça s'appelait Naissance de l'oubli. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce titre, Naissance de l'oubli ?
Peut-être, j'essaie là de réfléchir à ça, peut-être est-ce qu'il y avait le fait que justement, il faut avancer en laissant derrière soi des mémoires qui nous encombrent quelquefois.
Il faut apprendre à oublier.
Oui, et moi j'ai appris à faire alliance avec l'oubli, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des choses me passent par la tête, j'ai pas tout le temps incarné, je ne note pas à longueur de temps, je me dis, si j'oublie, c'est que c'était oubliable.
Mais les mots, Jeanne Benhammer, est-ce qu'ils peuvent au moins quelque chose pour vous ?
Ah oui, les mots peuvent beaucoup, parce que les mots, ils ouvrent pour moi des territoires à l'intérieur de moi, que parfois je ne connais pas. Et c'est pour ça que j'écris aussi.
Par exemple ?
Par exemple, quand j'écris « L'exil n'a pas d'ombre » ou « Ceux qui partent », un mot peut faire venir tout un espace.
Quel mot ?
Je n'en ai pas là qui me vient comme ça à l'esprit, parce que ça se passe dans le secret et l'intimité de mon bureau.
Words, English words, were full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
Words, 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 les mots, les mots, les mots, et la voix de Virginia Woolf en 1937 sur la BBC. C'est cette voix que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin, Jeanne Benhammer. Pourquoi ?
Parce que Virginia Woolf a été pour moi vraiment une grande, grande, grande découverte et que c'est quelqu'un que je lis tout le temps et pas maintenant parfois des extraits comme ça que je réouvre pour moi. Parce qu'elle a cette façon extraordinaire de pouvoir dire une émotion immense en vous parlant, par exemple, des marches de l'escalier.
Oui.
Juste ça, que quelqu'un ne descendra plus. Et tout d'un coup, elle n'a pas besoin d'autre chose. Parce que tout le texte avant vous amène, et tout d'un coup, les marches, elles sont là, et vous, vous avez les larmes aux yeux, parce que la disparition, elle est là aussi.
Et à l'entendre, ici, c'est comme si elle disait que l'écrivain est celui qui doit se charger sans cesse de réinventer la langue.
C'est ça. Ben, je suis d'accord. C'est ce qu'on essaie de faire. Et elle, elle l'a fait de façon merveilleuse. Et je pense que chacun de nous qui écrivons, on essaie. C'est une tentative à chaque fois.
Quelle langue est-ce que c'est pour vous, la langue française, Jeanne ?
Ah, c'est une langue des nuances. Et ce qui me désespère aujourd'hui, c'est à quel point on veut en faire quelque chose de binaire, où il faut dire oui ou non. Vous savez, les réponses, oui, non. Dites en quelques mots quelque chose, alors que c'est une langue magnifique dans laquelle on peut entrer, mais c'est une langue avec laquelle il faut prendre son temps. Voilà, il faut prendre son temps pour cette langue-là.
Vous dites parfois que sans l'arabe et l'italien, votre manière d'écrire ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. En quoi ces langues-là ont fait de vous l'écrivain de langue française que vous êtes aujourd'hui ?
Je pense que ces langues-là, elles sont là, je suis adossée, moi, à ces langues. Elles sont à la fois comme des ruines, mais vibrantes. Et elles m'ont donné une façon de regarder les mots avec un petit écart. Il y a le petit écart qui me permet de considérer le mot dans sa densité, vraiment, comme un objet dans sa densité. Comme, vous savez, quand on peint quelque chose, et tout d'un coup, l'objet, il va vibrer. Le mot, c'est pareil. Le mot, il vibre.
Cet écart, c'est l'exil dont vous nous parliez tout à l'heure, exil de la langue, de la littérature, exil géographique, et dont vous faites une richesse par là.
Oui, j'essaye. C'est l'écart qu'ont vécu mes parents, qui ont choisi la langue française, et qui m'ont élevée dans la langue française. Mais bon, bien sûr que ma mère me parlait italien quand on était très petit.
Ça voulait dire quoi, choisir la langue française ?
Ça voulait dire vouloir être plus français que les Français, Augustin. C'était le credo de mon père, c'était les années 60, et c'était l'intégration, j'allais dire, à mort.
Ce que vous nous dites, en somme, c'est aussi que les frontières entre les langues sont poreuses, toujours, qu'elles se nourrissent les unes des autres, j'ai l'impression.
Oui, et ça veut dire aussi qu'on a une langue d'avant toutes les langues, chacun d'entre nous. Quand on est sorti du ventre de notre mère, on ne parlait pas. On a la langue de notre corps, on a ce petit temps avant d'entrer dans l'alphabet où on n'est pas encore dans l'articulation du langage. On entend, mais on ne parle pas.
Alors le silence serait une langue ?
Oui.
Et quelle langue ?
Cette langue archaïque, là, qu'on essaie de retrouver quand on peut et qu'on trouve dans le silence de l'écriture.
Comment on l'a fait advenir en poésie ? Cette langue silencieuse ? C'est passionnant. Hein.
Je pense qu'il faut lâcher l'intention. Si on essaie de la faire advenir, on n'y arrive pas. Il faut laisser, là encore, les mots se poser et les mots génèrent le silence.
C'est-à-dire qu'elle se réalise dans l'acte de lecture, en fait.
Elle se réalise dans la venue, déjà, parce que ça vient de notre propre corps, ce silence et les mots. C'est un rythme, c'est notre respiration. Après, le travail, et c'est un travail, c'est l'écriture.
C'est un texte sur les frontières que vous nous avez écrit ce matin, Jeanne Benhamer, un texte qui s'appelle « Sauver notre peau ».
Oui.
C'est pas rien de sauver sa peau.
Non, et c'est une belle expression parce que la peau est un organe, et c'est vivant, la peau.
Vous nous le lisez ?
Oui. Quand j'écris, je sauve ma peau, palpitante. C'est la seule frontière au monde acceptable, celle qui respire entre le dedans et le dehors, vibrante. Quand j'écris, je la garde vivante pour pouvoir aller dans le monde. La peau ne protège de rien. Je sauve ma peau en lisant, en écrivant. La puissance des mots me donne force. La littérature est là pour ça. Pour que notre peau reste cette limite fragile, à peine et suffisante. Les murs, les barbelés, les contrôles et les armes ne protègent pas. Ils séparent, c'est tout. Notre peau nous relie. Notre seule vaillance, c'est accepter de ne pas rester intacte. Que nos vies se côtoient, se heurtent ou s'éloignent, mais c'est dans ce mouvement que nous vivrons, peau à peau. Au risque de l'altération, toujours. Sans ce risque, aucune altérité véritable. Sans ce risque, aucune humanité véritable. Je veux continuer à sentir le monde, être traversé, transformé par la vie des autres, leur joie, leur colère, comme je suis traversé par le souffle de l'océan ou l'odeur sableuse de la mer de Libye. Alors j'écris, je laisse les mots m'habiter, me travailler, j'y passe ma vie et c'est ma liberté. Quand je peux partager, c'est ma joie. Aujourd'hui plus que jamais, sauvons nos peaux d'hommes, de femmes, gardons-les libres, fragiles, éphémères. Il n'y a pas d'autre façon de vivre ensemble. Chaque vie, comme un poème, précieux, imparfait, à tenter chaque jour.
C'est un texte politique, Jeanne Benhamer, c'est un texte de résistance.
Mais le poétique et le politique sont liés.
C'est comme ça que vous l'envisagez aussi, votre métier d'écrire ?
Oui. Oui, je pense que c'est un acte politique, c'est le mien.
Dans le cadre de l'écriture ou également dans le cadre de lecture, précisément ?
Dans le cadre de l'écriture, c'est quelque chose d'intime. Dans le cadre de lecture et du partage, ça devient quelque chose de politique.
Merci pour ce matin. Merci infiniment, Jeanne, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que votre très beau texte, L'exil n'a pas d'ombre, sort demain aux éditions Bruno Doucet, que vous serez sur la scène de la Maison de la Poésie samedi pour en parler à Paris. Ça promet d'être très beau. Vous serez également ce soir à la librairie Les Rebelles Ordinaires à La Rochelle. Ça aussi, ça promet d'être très beau. Je rappelle aussi que la plupart de votre œuvre romanesque est publiée chez Actes Sud. C'est important de le noter parce que j'invite les auditeurs et les auditrices de Boomerang à s'y plonger. Merci, là c'est moi. Pour toutes ces lectures, tout de suite les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Quand tous les maux de la terre ne valent pas un soupir, c'est qu'il vaut mieux se taire et dire. À croire que ta mère t'a rien appris. Y a-t-il des filles que ça touche, ces mots qui sortent de ta bouche comme des perles? Moi je m'en fais des colliers que je jette à la mer et dis. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien. Et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Les vrais amours sont muets. Tu aurais dû t'en douter. Tu aurais dû la boucler et dis. Sûr que j'en serais pas là à t'étouffer dans les draps. Mais c'est pas l'heure de regretter ce qui est fait, fait. L'apprends pas. Laisse ta tête d'enfant rouler sur le matelas et dis. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien et dis rien de plus.
Eddie, Clara Luciani sur France Inter et tout de suite ce sont les médias. Sonia De Villers.
On est là, Augustin. On revient demain même.
À demain.
On se retrouve. Ciao.